Bonjour à tous, il est 14h passé de quelques minutes à la pendule de Radio Canu, comme tous les dimanches de 14 à 15, c'est musique, etc., une émission musicale de Radio Canu. Aujourd'hui, grosse émission, car on a la chance d'avoir dans le studio les membres du groupe Over the Snare. Over the Snare, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc ils sont quatre dans le studio, il y a Pierre, Audrey, Teddy et Thibaut. Alors peut-être faire un tour de table, enfin dire... votre rôle à chacun dans le groupe, en commençant par, peut-être par Pierre, quel est ton rôle dans Over the Snare?
Je suis guitariste du groupe et voilà, un des membres compositeurs du groupe. On l'est un peu tous. Voilà.
Donc, bonjour à tous, je suis Audrey, la chanteuse du groupe.
Donc Teddy, le claviériste du groupe.
Et Thibault, le batteur.
Alors en fait j'ai envoyé un peu rapidement un morceau pour voir à quoi ressemble votre musique, mais peut-être faire un petit historique du groupe. Ça fait combien de temps que le groupe existe? Quelle est son histoire? Comment vous êtes rencontrés tous les quatre?
Bah, c'est assez simple en fait. Au départ c'est un projet que moi qui me tenait à cœur en faisant je faisais des morceaux un peu tout seul dans ma chambre, et puis je cherchais à m'entourer de gens compétents sur les différents instruments et tout ça. J'ai rencontré Pierre via internet, puis le courant est passé, puis après on a monté la formule autour de ça, quoi. Puis maintenant le groupe est une entité à part entière, quoi. Voilà, ça a quoi, deux trois ans maintenant. On a sorti un premier EP l'année dernière en autoproduction avec Ashrama Productions,
qu'on écoutera tout au long de l'émission d'ailleurs.
Voilà. Et puis, c'est sorti en mai 2012. On a fait une petite série de concerts. Et puis maintenant, voilà, là, on remonte sur scène avec la nouvelle saison qui arrive. Et puis, y a pas mal de nouveautés qui vont arriver, quoi. Voilà.
Ouais, on le répétera tout au long de l'émission. Maintenant qu'il y a une date avec Nu sur le bitume, qui était là la semaine dernière pour les habitués de l'émission. Et c'est une date. Donc Over the Snare, c'est au Toy Toy le Zinc, c'est ça?
C'est ça, au Toy Toy vendredi 11, et voilà, c'est Nu sur le bitume qui nous a invités, et on est très content de partager la scène avec eux.
Et on le répétera, je pense, tout au long de l'émission. Et toi, Audrey, comment tu as rejoint le groupe en fait?
Alors, j'ai rejoint le groupe en dernier, et c'était une audition en fait. Voilà, on était plein de chanteuses à concourir et j'ai gagné. Donc voilà.
Et toi, Teddy?
Moi, je connaissais Pierre parce qu'on a un autre groupe ensemble.
C'est quoi ce groupe?
The Wagons, qui est voilà, aussi dans le label Ashrama. Et voilà, du coup, on se connaissait déjà, et du coup, ça a paru logique de rentrer dans Over the Snare. Voilà.
Et le nom du groupe, Over the Snare, c'est une question qui doit revenir, mais qu'est-ce que ça signifie? De ça vient d'où?
Rien et plein de choses. C'est un égo trip de batteur, on va dire, au départ. The Snare, c'est la caisse claire. Overhead, à la rigueur, on peut interpréter ça comme ça, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de sens à mettre là derrière. Voilà.
Je vais envoyer un morceau. Votre style de musique, on parlera de quoi pour Over the Snare?
Bah, trip hop, à défaut, c'est l'esthétique qu'on s'est mise parce que bon, on aime bien. Un peu tout cette esthétique là, mais bon, après on a une interprétation propre du truc, je pense. Puis c'est aussi un terme qui regroupe quand même un spectre assez large de choses, donc voilà, trip hop.
Ryan, please say over when you finish talking. Over.
What? Over.
Do you see the word over?
No.
Over.
No, over.
You are the...
Welcome to the very snare.
Snares on, snares off.
Ah!
Charles Ostner sur Radio Canu dans Musique, etc. avec donc une introduction qui s'appelle OTS et un morceau, le morceau suivant qui s'appelle Passenger. Alors, Over the Snare, je ne sais pas, peut-être dire un petit mot sur ce morceau. Est-ce qu'il a une histoire particulière? De quoi il parle? Qui se lance?
Je vais lancer. Ce morceau parle justement du côté un peu éphémère de la nature. Et voilà, du fait qu'il faut un peu la préserver, parce que du coup, on n'est que de passage sur cette terre, en fait. Donc voilà, c'est d'où le titre Passenger.
Et vos influences à chacun, peut-être faire vos références, qu'est-ce que vous avez beaucoup écouté, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la musique, peut-être faire un tour de table, je sais pas, comment commencer par peut-être
ouais,
Pierre.
Nos influences sont assez diverses, hein. On a tous des parcours bien, bien différents, que ce soit au niveau de la formation musicale ou même de nos parcours professionnels. Moi, j'ai pas mal bossé dans les musiques dites actuelles, que ce soit le rock, le hip-hop, musique actuelle au sens large. Après, chacun a un peu son parcours et son vécu. Voilà.
Pour ma part, j'ai un peu baigné dans une culture plutôt de musique classique et de jazz. Du coup, j'ai découvert sur le tard le côté, comme disait Pierre, rock, voilà.
Qu'est-ce que tu as écouté en particulier en musique classique? Tu aurais des noms à nous donner peut-être?
Pas mal de Vivaldi, beaucoup de Bach par exemple.
C'est le côté musique savante du groupe.
C'est ça.
Voilà.
Et toi, t'as dit qu'est-ce que tu as beaucoup écouté?
Disons que moi je viens plutôt du hip-hop à la base. Donc plein de choses quoi. Donc que ce soit français ou américain. Voilà, et puis du coup plus une direction musique électronique et tout ça, en général.
Tu aurais des noms à citer
Alors disons plutôt des trucs d'aujourd'hui, comme ça on fait plutôt que l'histoire. Voilà. On va dire qu'en ce moment je suis bien à fond sur Moderat, le duo entre Mode Selector et Apparat. Voilà, par exemple. C'est au niveau du son, c'est vraiment des choses qui m'intéressent.
Thibaut, tes influences?
Plein de choses. Pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai quand même beaucoup baigné dans le rock, plus jeune. Rock, pop, et puis après toute la vague des années 90 qui m'a beaucoup influencé à un moment donné où je me suis mis à écouter beaucoup de musique. Et puis par extension, après plein de choses, du jazz aussi, du classique. Voilà, vraiment très très varié quoi. Mais avec une grosse dominante rock quand même.
Et une question que je pose à chaque fois, à chaque émission, est-ce qu'il y a un CD qui tourne en ce moment sur vos platines? Le CD qui tourne en ce moment sur vos platines ou sur vos MP3, qu'est-ce qu'il y a un CD qui tourne en ce moment?
Oui, mais on s'éloigne un peu des musiques actuelles. Mais moi, j'ai récupéré en vinyle deux compiles de Billie Holiday sur des inédits en studio. Ça tourne pas mal à la maison en ce moment. Voilà.
André, il y a un disque en ce moment?
J'alterne en fait entre des périodes vraiment où j'écoute beaucoup de musique et des périodes un peu arides où j'écoute rien. Et donc là, en ce moment, j'écoute rien. Et voilà, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit en ce moment.
Pierre, peut-être Thibaut, il y a un disque en ce moment sur ta platine?
Alors il y a un disque sur ma platine, je crois que c'est un live de Piazzolla 77. J'aime beaucoup Astor Piazzolla. Après, dans mon autoradio, je crois que, enfin dans mon iPhone, j'ai rechargé.
Pas de pub, s'il te plaît.
Merci. Pas de pub dans mon Tibitiphone. Du coup, j'ai téléchargé Atom for Peace là que Pierre m'a fait découvrir. Et on est allé voir tous là un concert aussi, c'était jeudi soir au Périscope de Dr. N. Enfin moi j'ai pris personnellement une grosse claque. Du coup voilà, ça m'a donné envie de me replonger sur Fela Kuti et un peu ce genre de choses quoi. Donc Afrobeat quoi.
Et votre formation musicale à chacun, comment vous avez appris la musique? On peut refaire un tour de table, comment vous avez appris la musique? Pierre, peut-être.
Comme beaucoup de musiciens, pas mal en école de musique. Voilà. Moi, je suis un peu issu des conservatoires de région, de la région même, en musique actuelle et en jazz. C'est là où j'ai fait mes armes, même si après un cursus musical, c'est fait de rencontres, c'est fait de gens qui te donnent des petits tuyaux, qui t'ouvrent sur de la musique. On va dire que j'ai fait mes classes en conservatoire, et puis il y a beaucoup de rencontres qui m'ont fait progresser dans mon domaine, quoi.
Ouais, pour moi c'est la même chose, j'étais dans le conservatoire assez jeune, donc voilà, c'est un peu là où j'ai tout appris le côté un peu technique et théorique, et puis après, comme disait très justement Pierre, tout le côté vraiment musique, rock, scène, voilà, c'est des rencontres, ça se passe pas du tout là-dedans, quoi.
Pour moi, je suis moitié-moitié, je suis quand même relativement autodidacte. J'ai pas mal appris tout seul. On va dire que le hip-hop, il m'a pas mal ouvert sur tous les styles de musique en faisant du sample. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler le jazz, de travailler le classique, de faire ce genre de choses. Et du coup, après, j'ai pris plus de cours. Je suis autodidacte à la base. Et après, j'ai pris des cours pour un petit peu mettre des noms sur ce que j'entendais, quoi. Voilà.
Thibaut. Ouais, pareil que t'as dit, autodidacte à la base vraiment, puis avec des cours particuliers, quoi. Voilà.
Because I know you.
Over the Snare dans Musique, etc. sur Radio Canu avec le morceau Revelation, non, comment on peut dire
Revelation.
Ouais.
Avec l'accent.
J'ai eu un doute sur l'accent. Donc c'est toujours extrait de votre disque. Dire un mot, je crois qu'il y a une petite anecdote sur ce morceau, Revelation, qui s'y frotte.
Allez, je m'y frotte. À la fin, on entend un clavier, c'est un Wurlitzer. Et c'est le. En fait, il est mort ce jour-là, pendant cet enregistrement-là, à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est le dernier moment où un de mes claviers a marché, qui est un clavier que j'aime beaucoup.
Mais on a eu le temps de finir le morceau quand même.
Voilà, c'est ça.
Ouais, et puis comme je te disais en off, là, pendant l'écoute, c'est assez drôle parce que il commence à dater un peu, les prises commencent à dater un peu sur cet enregistrement. Et du coup, moi, ça fait un moment que je ne l'avais pas réécouté. C'est toujours assez cool de réentendre ton travail, enfin, tu vois, quelques mois après. Voilà, ah, c'est assez drôle.
Surtout que c'est réussi, quoi, le disque est très réussi. Ouais,
merci.
Surtout que Pierre, dans ce disque, il n'a pas fait que jouer, il a aussi mixé. Donc, c'est, quand il parle de réécouter son travail, c'est aussi, et en tant qu'interprète, et en tant que.
Ouais, voilà, tu réécoutes ton travail quelques mois après, c'est assez marrant.
Tu étais en tant qu'ingénieur du son dans le.
Ouais, voilà, bah, on a fait les prises à la maison, un peu dans chaque pièce de la maison. Et voilà, j'ai fait le mix derrière et on a sorti ce projet-là, quoi, ce produit-là.
Et ça parle de quoi ? Enfin, le morceau parle de quoi ?
Alors, c'est un morceau qui parle de relations amoureuses, en fait. Du fait que c'est l'histoire d'une fille, par exemple. Disons une fille, peut-être que c'est un garçon, je ne sais pas. Mais en gros, qui attend une personne et qui pense fort à elle. Et du coup, elle le connaît avant même de le voir. Voilà.
Et sur quel principe fonctionne le groupe ? Qu'est-ce qui en nourrit la dynamique ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes contents de jouer ensemble ? Que Over the Snare, ça fonctionne ? Qu'il y a une alchimie ? Enfin voilà, l'alchimie Over the Snare.
Déjà, je trouve que du fait qu'on vienne un peu d'horizons tous différents, c'est assez riche en contenu. Voilà, chacun a ses expériences, chacun a ses points de vue. Du coup, ça amène énormément de matière artistique dans le projet. Après, comment on fonctionne, y en a un qui amène une idée, comme beaucoup de groupes, quoi. C'est un travail assez collectif.
Ouais, il y a un réarrangement après en commun.
Voilà, il y a quelqu'un qui amène son idée, on en discute, on travaille autour. Souvent, c'est Audrey qui amène le texte et la partie de la voix. Mais voilà, c'est un travail assez collégial et en commun, quoi. Du coup, c'est assez fun de bosser comme ça.
Oui, on parlait plus précisément peut-être de la composition. Donc c'est toi, André, qui amène un texte, enfin que tu parles de.
En fait, en général, on parle plutôt de la musique. On élabore ensemble une trame musicale à partir de la source que l'une des personnes du groupe a amenée. Et sur cette musique, je trouve d'abord une mélodie et ensuite un texte.
Voilà, la compo est beaucoup, même exclusivement, basée sur la musique. C'est ça, bien parce qu'on est tous musicien avant d'être parolier. Vraiment, le groupe, c'est l'idée, c'est de faire de la musique. C'est pas, on est à l'antithèse de la chanson française où il va y avoir un auteur qui va écrire un texte qui va être mis en musique. Nous, c'est vraiment l'inverse, c'est de la musique avant tout. Après, il y a un texte qui vient se greffer dessus. On essaye de faire de la musique avec le texte. Enfin, Audrey essaye de faire ça, quoi. Mais voilà, notre ligne, c'est la musique, c'est pas forcément le texte.
Et comment vous arrivez jusqu'à la finalisation des morceaux, enfin, pour finaliser le morceau, enfin, quand il est prêt à jouer, prêt à enregistrer, est-ce que tu peux un peu décrire les étapes, non, enfin, peut-être.
Tu peux reposer la question.
C'est un peu fou. Donc vous parlez du point de départ, mais le cheminement. Quel est le cheminement jusqu'à ce que le morceau soit finalisé et prêt à être enregistré ou à être joué sur scène ?
Bah, on passe par des étapes plus ou moins obscures, on répète. Il y en a un qui a une idée chez lui, il la cogite de manière plus ou moins mûre, on va dire. Ça peut être une idée globale sur tout l'ensemble de la construction, ça peut être juste une bribe qu'on va travailler ensemble. Après, il y a toute l'étape de répétition. Ce qui est pas mal, c'est de jouer un peu les morceaux sur scène avant de se lancer dans un enregistrement.
Il y a une étape de structuration aussi, où ton morceau, tu travailles autour, tu le confectionnes, quoi, tu le modèles, et puis une fois qu'il est là, en général, ouais, après, on le teste sur scène, et une fois qu'il est validé ou pas sur scène, il y a aussi ce rapport aussi avec la scène qui est super important, je crois, pour la construction.
Ouais, et puis ça reste vivant, là. Tu vois, les morceaux qu'on a enregistrés il y a un an et demi, ont déjà vachement évolué sur scène. Ça a été figé, c'est une photo à un instant T, un enregistrement derrière. Le morceau peut se transformer encore et encore, quasi à l'infini. Parce que quand t'as fait 15 dates, le même morceau, tu te dis « Ouais, mais ça, je pense qu'il faudrait qu'on le modifie, qu'on le fasse évoluer, etc. etc. » Donc ça reste vivant comme truc.
Ouais, et puis quoi qu'il arrive, tu conçois pas un morceau, enfin en tout cas dans la musique qu'on fait, tu ne penses pas de la même manière sur un disque que tu vas écouter sur ta platine que sur scène devant un public avec une interaction avec typiquement Revelation, il est beaucoup plus long sur scène, il y a des passages de solo, il est arrangé différemment,
il y a quelques plages d'impro dans notre musique sur scène. Et ça, c'est sûr qu'on le met pas forcément en avant sur les enregistrements. C'est deux boulots un peu différents.
Et en fait, il y a beaucoup de travail en répétition, j'imagine. Enfin, les répétitions, ça se passe comment? Vous répétez à quelle fréquence? Quel est le...
Comment... Ça dépend, on essaye plutôt de se mettre des sessions, on va se dire, voilà, là on a une échéance, la date du 11 octobre au Toy Toy, par exemple, hein, à tout hasard.
11 octobre au Toy Toy,
c'est quand? Le 11 octobre.
Voilà, donc du coup,
un vendredi.
Il faut répéter à la radio, donc vas-y, je t'ai coupé.
Au Toy Toy.
Du coup, on s'est mis des plages de répète pour cet événement-là. Voilà, donc on se fait des petites sessions de 2-3 jours, voire plusieurs sessions de 2-3 jours pour préparer un événement, quoi, à savoir le 11 octobre au Toy Toy.
Le zinc.
Et c'est non.
À 21h, avec nu sur le bitume.
Et à ce moment-là, en fait, quand il y a des répétitions un peu intensives, c'est combien de temps vous répétez, combien de temps? Enfin, c'est des journées entières,
En général, en minimum, c'est sur la journée. Après, ça peut être 2-3 jours.
Voilà, mais tu vois, on s'installe, ensuite
c'est tranquille,
on se fait une bouffe parce que c'est vachement important. On boit le café.
Le café, c'est important.
On fait la sieste, on répète, on mange. Voilà, on se pose bien, on se met bien.
On vit, quoi.
Your life seems shorter than the lines of your hands. He, she slips between your fingers. The time is now when. Time is now. Hope and desire.
The Snare sur Radio Canu dans musique, etc. avec le morceau The Time Is Now. Alors peut-être ma question qui revient, voilà, comme un boomerang. Qu'est-ce que un petit mot sur ce morceau?
Alors ce morceau, c'est un morceau qui me parle particulièrement parce que c'est celui dans lequel ressort le plus justement les influences un peu jazz dont j'avais parlé, un peu gospel, avec une mélodie plutôt grave, assez répétitive sur un rythme assez comme un peu lancinant derrière, un peu tribal. Donc voilà.
Et le morceau parle de quoi ?
Time is now, ça parle de la difficulté justement d'avoir à prendre une décision. Et bah, time is now, ça veut dire c'est le moment, où il faut y aller. Voilà.
Et la composition, c'est assez cool, c'est ce que tu disais, ce côté un peu gospel, justement d'arriver dans un... de mélanger le côté plus électro avec quelque chose avec des influences un peu gospel, comme dit Audrey, tribal, quoi, quelque chose d'assez... basique, d'assez terrien, quoi. Et puis en même temps avec pas mal de séquences, voilà, c'était un beau mélange. Après voilà, c'était assez fun cette construction, voilà, de ce morceau.
Et toi Audrey, tu disais, enfin on disait que tu écrivais les textes, et enfin l'inspiration te vient d'où en fait?
Alors,
tu parles d'un mot, d'une émotion, d'une, je sais pas.
Donc dans ce disque et dans le live aujourd'hui, les inspirations étaient assez quotidiennes, c'est-à-dire des situations d'amour, des paradoxes un peu. Par exemple, on a envie de faire quelque chose, mais on a un obstacle qui nous en empêche. Et du coup, voilà, je crois qu'une bonne chanson naît d'un paradoxe en fait. Voilà. Après aujourd'hui, là où j'en suis dans ma phase de composition de texte, c'est j'ai envie de m'inspirer en fait de vraiment de légendes anglaises en fait anciennes, de comptines, de voilà. Donc je relis mes contes, je relis Anderson en ce moment. Donc voilà.
Et il y a des thèmes qui reviennent de texte en texte. Enfin tu.
Non, chaque chanson, j'essaie que chaque chanson soit assez originale et forme un tout un peu autonome. Voilà.
Et comment qualifier votre démarche, Over the Snare? Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer quelque chose de particulier dans vos chansons, de susciter des émotions particulières auprès du public? Enfin, qu'est-ce que vous voulez?
Ben, comme l'a dit Pierre, le plus important pour nous, c'est vraiment la musique. Donc voilà, la musique est en soi, en elle-même, un discours. Donc après quelles émotions ça suscite, je pense que c'est pas vraiment contrôlable, voilà. Et par rapport au message du texte, comme vous avez pu voir, je m'inspire de choses assez abstraites finalement. Donc on ne défend pas ni un message politique ni un message, on reste vraiment dans l'esthétique.
Ouais, et puis il y a quand même deux choses bien différentes, bien que le contenu soit pas politisé ou politique, et qu'on essaye de se focaliser sur plus quelque chose d'ambiant. Voilà, l'idée c'est d'avoir une émotion à travers la musique et de se contenter de ça. Après, nous on travaille avec le label Ashrama Prod, qui est un label complètement indépendant. C'est ça, par contre, c'est une volonté politique de ma part et de notre part, je pense, voilà, d'être indépendant et de travailler ces musiques actuelles au sein de quelque chose de très indépendant. Voilà, c'est faire partie de la scène locale, mais nationale, on va dire. Enfin, à la base locale, mais s'étendre nationalement, avec un label complètement indépendant. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous.
Après, indépendant, ça ne veut pas dire dans son coin, à faire ces choses tout seul. Évidemment, on travaille avec beaucoup de partenaires. Mais bon, voilà, c'est important de le souligner. Là, par exemple, avec Over the Snare, on vient de rentrer, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le prononcer comme ça. Enfin, voilà, on travaille avec depuis très peu avec une boîte de booking qui s'appelle Premier Jour à Annecy. Et donc voilà, donc on va voir sur la saison comment ça va se développer. Voilà.
Et booking, en fait, ça consiste en quoi donc?
Bah, c'est très important parce que c'est en gros celui qui te trouve des dates, quoi. Voilà, donc c'est grâce au booker que quelque part le groupe peut aller sur scène, et en même temps, inversement, le groupe va sur scène et fait exister le booker. Donc c'est un échange qui est quand même assez important. Voilà.
Et en fait, peut-être où vous avez fait le tour, ou peut-être parler de votre relation avec le label, comment l'interaction entre votre label et vous et le groupe, comment ça se passe, enfin
Ben, Ashrama Production, donc le label, c'est un label qu'on a fondé en fait il y a 3 ans et demi, 4 ans.
2009, ouais, officiellement.
Ouais, fin 2009, officiellement. Et voilà, on a construit le label. Teddy a parlé de l'autre groupe, The Wagons. C'était à l'époque où Over the Snare était encore plus embryonnaire qu'on a fondé le label. Et l'idée, c'était vraiment d'être autonome dans la production phonographique et dans les prémices de la diffusion. Donc c'est comment prendre un groupe qui démarre et le faire aller vers le plus haut possible. Donc, mais c'est quelque chose qu'on a monté nous. Donc il y a encore cette notion d'indépendance qui est très importante pour nous.
Et l'album, on arrive à l'album, comment il est distribué, justement, où on se le procure, pour ceux qui aiment votre musique?
Alors, en concert, surtout.
En concert, c'est là où on en vend le plus. Sinon, il est disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes numériques, sans citer de nom. Et on essaye de bosser le plus possible avec les disquaires indépendants, parce que l'idée du label, c'est d'arriver à sortir tous les disques en CD, en vinyle. Bien sûr, mais en vinyle, voilà.
Ah, d'accord.
Donc on essaye de bosser avec le plus de disquaires indépendants. Donc sur Lyon, on peut citer JBR Joseph, on peut citer Danger House, on peut citer...
Il y a Buffet Froid, il y a... Enfin ouais, on a surtout les disquaires de Lyon, puis c'est vrai, quand on part en tournée, en général, on se fait la tournée aussi des disquaires, voilà, pour poser des disques, et puis voilà, on en a même chez Root Trade, à Londres.
À Londres, ah, ça, on en a en Suisse, à Genève, à Lausanne, enfin voilà. Voilà, on aime bien, parce que cette relation avec les disquaires indépendants est vraiment sympa, c'est des mecs qui aiment la musique, qui aiment la faire partager, qui aiment en écouter.
Puis c'est un échange, on n'y va pas pour poser notre disque aussi, pour dire tiens, prends notre disque. Enfin, c'est, t'arrives avec quelque chose, puis t'engages une discussion, tu vas dire voilà, moi, mon projet c'est ça, c'est telle esthétique, etc. Le mec, tu discutes avec le gars, il va te donner des pistes. Enfin voilà, c'est aussi une rencontre, quoi. Puis cet échange est super important, moi je trouve, dans la musique en général, pas pour extrapoler, mais bon, voilà.
Et pour arriver plus, l'album, comment il a vu le jour, parler un petit peu de l'enregistrement, Over the Snare en studio, on l'a un petit peu évoqué, mais d'être plus précis, comment ça se passe, que vous avez du plaisir à être en studio, c'est un passage obligé,
c'est un exercice le studio, quoi.
Ouais, après moi je suis assez fan de cette discipline, parce que une fois que tu as construit tes morceaux, tu les as fait vivre sur scène, ça permet quand même de se recentrer un petit moment sur tes envies sonores, sur qu'est-ce que tu dois mettre en avant à tel passage ou tel passage du morceau. Je me rappelle plus combien de temps on avait bloqué pour cet enregistrement.
4 ou 5 jours.
Quatre ou cinq jours de prise, on était tous ensemble pendant 5 jours. C'est quand même des moments qui sont un peu privilégiés. Enfin, tu vois, jour et nuit, t'es ensemble, tu manges ensemble, tu te lèves. C'est pendant 5 jours, t'es enfermé complètement dans ton projet.
C'est dans ta bulle, quoi.
Ouais, c'est des moments assez forts, assez intenses, en fait. Et là, c'était une période courte pour un EP, mais moi, j'ai eu l'occasion de faire des séances d'enregistrement de 30 jours. Voilà, là, l'immersion, elle est très, très forte. Donc, chaque période d'enregistrement, tu ressors, t'es pas le même, forcément. Voilà.
Et on arrive à avoir un peu de recul quand on est en studio,
mais c'est en même temps, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu te focalises sur quelque chose et puis tu fais émerger, ce que t'as à ce moment-là, c'est une photographie, c'est un instantané, quoi. Ce qui est, pour revenir sur ce que tu disais avant, Guillaume, c'est là, ce EP, il est assez particulier parce que les morceaux, on les avait pas joués sur scène, en fait, avant de les mettre sur la galette. C'est nous, le disque, on l'a sorti avec Ashrama aussi pour lancer le groupe et puis pour avoir les outils, en fait, qui nous permettent de démarcher les salles, qui nous permettent d'aller voir d'autres partenaires et de rentrer dans la machine, quoi. C'est ça le truc. Après, on a bossé aussi différemment sur un autre morceau qu'on avait enregistré chez Microcosme cette année, So Strong in My Head.
Voilà, vous pouvez découvrir le morceau sur YouTube.
Ouais, qui est très réussi aussi. Il y a un clip,
L'idée c'était de faire des petites vidéos pour voir un peu le groupe en live version studio.
Ouais, c'est ça. Alors c'est complètement différent. C'est vraiment une approche live, en fait, sur ce morceau qu'on a. Ce morceau existait déjà avant. On l'a joué sur scène et du coup, on l'a énormément retravaillé avant de le passer en studio, en fait. Voilà. Et donc, du coup, quand on est arrivé chez Microcosme, en plus avec 5 caméras qui te tournent autour, machin, donc déjà, faut te préparer au truc, ce qui est vachement bien. Hein. Et du coup, on avait pas mal de nouveautés. Enfin, il était beaucoup travaillé, le morceau. Du coup, on l'a joué live et on a fait des prises quasi live, quoi. Voilà.
Oui, enfin, j'invite tout le monde à peut-être répéter le titre du morceau. Donc, on tape Over the Snare sur YouTube, on le trouve assez facilement.
Ouais. On a une.
Peut-être répéter le titre du morceau, c'est Strong in My Head.
So Strong in My Head. Et on le trouve sur la chaîne Ashrama Production, la chaîne vidéo Ashrama Production.
Et il n'est pas sur le disque,
non. Et non, parce qu'il a été fait après. Voilà. Peut-être qu'il sera sur un prochain disque.
Et Audrey, toi, ton expérience du studio, c'était un plaisir? Comment t'as vécu le fait d'être en studio de ton côté, personnellement?
Plutôt bien, parce que pour moi, ce premier EP, c'est vraiment le moment où le groupe est vraiment né sous sa forme actuelle, en fait. Parce que finalement, répéter même une fois par semaine dans un local de répétition, c'est pas la même chose que d'enregistrer, comme l'a dit Pierre, pendant 3 jours où on mange ensemble, on va faire des balades ensemble, on travaille ensemble. Donc voilà. Et du coup, j'avais pas énormément d'expérience de studio avant. Et du coup, comme c'était Pierre qui enregistrait, enfin, on a aussi pas mal travaillé en duo à ce moment-là. Et c'était aussi là où on s'est rendu compte que notre binôme fonctionnait bien. On était assez, assez heureux, finalement, à ce moment-là.
Pierre est un ayatollah en studio. Hein.
Pour le savoir, je ne lâche rien.
Et ça s'est vraiment bien passé. Et puis surtout après, quoi, de se rendre compte après le mix, 3 mois après, on écoute et on se dit ah oui, mon groupe, c'est ça, en fait. Et c'était une super bonne surprise.
Teddy, toi, ton expérience du studio, comment tu l'as vécu?
Eh ben, celle-là en particulier, j'ai vraiment adoré, parce que ça a été un moment où j'ai
cassé ton Wurlitzer,
entre autres. Non, à part ça, merci pour la mauvaise nouvelle. Non, en fait, j'ai vraiment adoré, parce que ça a été une séance où j'ai testé vraiment beaucoup de choses avec différents sons, différents logiciels un petit peu spéciaux. J'ai vraiment testé des nouvelles choses. Et après, ça a été vraiment super aussi d'entendre ce que Pierre derrière en avait fait au mix, parce qu'on avait mis des tonnes de trucs. On avait vraiment enregistré des milliards de sons différents,
Au niveau de clavier machine,
on avait bien chargé des
tonnes de pistes que après j'ai mis. Voilà. Un peu de temps à découper dans tous les sens. Du coup, Teddy, il a fourni énormément de matière. Et moi, j'ai vraiment découpé dans tous les sens. Alors, des fois, il y avait toutes des pistes entières où j'ai récupéré 3 sons que t'entends à droite, à gauche, machin. Voilà, c'était assez drôle, ce truc.
Ouais, c'est super. Et puis derrière, en plus, quand tu rejoues les morceaux après en live, où tu essayes de voir ce qui est important, ce qui est moins important à rejouer, parce que derrière, les séquences, ce genre de truc, ça a été un gros travail pour le jeu en direct. Parce que, voilà, on voulait pas non plus être trop figé dans ce groupe-là. On veut que tout soit joué, et du coup, il fallait trouver des solutions pour mélanger les séquences, qu'elles vivent en direct. Et du coup, pour tout ça, c'est pareil, j'ai été obligé de retravailler derrière comme j'ai travaillé en studio. Donc voilà, pour moi, c'est des séances vraiment que j'adore, quoi. Voilà.
Et donc, on parle de crise du disque. Comment vous situez par rapport à ça? Le fait que les CD se vendent plus, vous avez fait un CD, comment...
Ouais, mais ça, la crise, faut arrêter ça. Mais au-delà de la crise du disque, la crise n'existe pas. C'est dans ton cerveau, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a plein de gens qui vont acheter des disques, il y a plein de gens qui s'échangent des disques, il y a plein de gens qui en veulent encore des nouveaux. Donc, rien que pour ces gens-là, on se doit de faire un disque. Et puis. En tant que musicien, c'est quand même super, quoi. Tu poses sur une galette un truc que t'as cogité, il y a un public qui l'écoute, qui achète tes disques. Rien que pour ça, faut faire des disques, quoi.
Enfin, ouais, puis le disque, c'est un format, quoi, finalement. Enfin, je veux dire, ça peut être un disque, ça peut être un CD, ça peut être un vinyle, ça peut être en ligne sur Internet, sur SoundCloud, sur... Enfin, pour pas en citer d'autres, donc du coup Bandcamp, MySpace, pardon. Ouais,
Audrey nous faisait des signes en cabine pour nous dire aussi, c'est l'occasion de parler de la pochette du disque, quoi. Pour nous, c'est un. Enfin, Teddy, peut-être tu peux plus en parler ou.
Pochette est très. Donc, enfin, je sais pas, peut-être la décrire.
C'est aussi c'est un point d'honneur qu'on se met sur Ashrama, c'est produire des disques de qualité avec des illustrateurs de qualité. Là, on a travaillé sur les deux disques, que ce soit The Wagons ou Over the Snare, avec des illustrateurs de bande dessinée. Vincent Perriot pour Over the Snare, on peut le citer, parce que c'est quelqu'un de très talentueux, on adore son travail. Et voilà, c'est aussi voilà, c'est un moyen de pas que faire de la musique, le disque, c'est un moyen de sortir quelque chose un projet artistique global, qui soit visuel, sonore, et en ça, c'est plus qu'intéressant.
D'ailleurs, on avait joué avec Vincent au Périscope, un de nos premiers concerts où il était là. Et en fait, il dessinait en live avec nous sur ces tables à dessin. Et c'était filmé et projeté du coup en même temps. Donc du coup, c'était aussi un moment comme ça pour vraiment proposer cet univers artistique au moment de la sortie du disque, au moment où on commençait à faire de la scène. Et ça a été vraiment, moi j'ai un super souvenir de ce concert, quoi.
Over the Snare avec le morceau Get Away, toujours extrait de leur disque. Je vous rappelle que vous écoutez musique, etc., et que vous êtes sur Radio Canu. Peut-être dire un mot, Audrey, par exemple, sur ce morceau Get Away.
Alors, ce morceau, c'est un morceau dont le texte est encore écrit à la première personne et qui parle du combat, justement, du narrateur avec un peu ses mauvais démons, donc qu'il invite à partir, du coup. Voilà. Get Away.
Ça veut dire quoi, Guédo?
Du coup, va-t'en.
D'accord. On parlait tout à l'heure du studio, peut-être évoquer la scène, Over the Snare, sur scène, votre expérience à chacun, en fait, peut-être Thibaut.
Ouais, bah nous, on adore faire de la scène, quoi. Enfin, je crois que c'est un peu la finalité d'un groupe quelque part aussi, la rencontre avec le public, l'interaction, les tournées, voilà, la visite de plein de pays. Enfin, on n'est pas encore là, mais. Mais ouais, enfin après, du coup sur la scène, il y a vraiment, comme on le disait, un réarrangement des morceaux parce que, bah voilà, pour des questions techniques, pour des questions dynamiques aussi, tu vas penser ton morceau d'une certaine manière pour emmener le public à un certain endroit parce que voilà, t'as envie de l'emmener là. Tu vas aussi interagir selon les morceaux. On s'est pas mal pris le chou sur la dynamique du set, c'est-à-dire qu'au début, on a une dizaine de morceaux qu'on joue dans un ordre. Certains, puis on se rend compte que ça marche peut-être mieux comme ça, donc on teste comme ça, donc voilà. Je crois que là on a trouvé un peu la dynamique du set qu'on voulait avoir, et que maintenant aussi ça fait un an et demi qu'on joue ces morceaux-là, et que on va commencer à en jouer des nouveaux sur scène, on va recomposer, on va voilà, peut-être le dire, annoncer aussi une petite entrée en studio, au Ashrama Studio. Pour voilà, pour
ouais, moi comme je pense qu'on voit le truc, c'est que tu fais un premier disque, tu construis ton set. On avait fait une résidence à l'épicerie moderne, je ne sais plus quand d'ailleurs,
mai 2012,
voilà. Donc enfin tu vois, l'idée c'est de créer ton disque, de créer en résidence ton live. Et tu pars comme ça avec un premier projet. Après, tu viens greffer d'autres morceaux, donc tu penses déjà à réenregistrer, à refaire des résidences pour reconstruire ton live. Voilà, tout ça, c'est un peu global. La composition, le live, le disque, tout va ensemble. Et bah voilà, dès que tu construis des morceaux, ça veut dire qu'il faut refaire des disques, refaire des résidences pour proposer un live à chaque fois mieux et récent. Et voilà.
Et Thibaut l'a dit un peu, mais en fait, l'ordre des morceaux dans un set est important. Enfin, vous voilà. Y accordez
plus qu'important,
c'est beaucoup de soins.
C'est primordial, ouais.
L'idée, parce que c'est comment tu vas arriver à aller choper le public. Tu peux pas leur mettre dès le début de set tous les passages qui envoient le bois et après avoir que des trucs calmes. C'est créer une dynamique pour vraiment emporter l'auditeur dans ton monde. Donc ça se bosse, ça demande de tester ça en live sur plusieurs voilà, tu réagences et tu vois ce qui se passe.
Ouais, puis même dans différents contextes de live, hein, ton set il fonctionne pas de la même manière quand tu joues dans un cave-cons où à 20 personnes bah, tu te marches dessus parce que c'est blindé, que sur une grosse scène où tu vas avoir 300-400 personnes devant toi, où bon voilà, tu n'étais pas dans les mêmes histoires, quoi.
Et Audrey, toi, ton expérience de la scène personnellement, tu vis le fait d'être sur scène?
Bah, plutôt bien. Après, c'est toujours un chemin qui est assez périlleux, finalement. Donc, j'avais pas fait énormément de scènes avant de monter sur scène avec Over the Snare. Donc, il a vraiment fallu trouver une place qui soit cohérente, trouver un rapport avec le public aussi qui fonctionne, en passant par plusieurs étapes. Au début, justement, je pensais que c'était... Je me voyais plus dans quelque chose de très dynamique, et puis à la fin, au final, on arrivait dans quelque chose de plus retenu et plus voilà, et plus d'ambiance, en fait, qui correspond mieux aussi à la place de la voix dans la musique. Donc voilà, la scène c'est très intéressant avec ce groupe, en fait. C'est une problématique très intéressante.
Et tu es sujet au trac avant de monter sur scène, tu es dans quel état?
Eh bien, ça dépend, parce que souvent j'ai du trac après, en fait. C'est en sortant de scène que je commence à me sentir pas bien. Mais je me rappelle notamment d'une scène qu'on a fait cet été à Mercurol, où on est monté sur scène, où les gens du public hurlaient le nom du groupe d'avant.
Oui, qui avait cartonné, c'était Diarra.
C'était génial, ce groupe avant.
Du coup, une esthétique complètement différente, parce que...
Très festive, très...
Super bien, quoi. Et puis, en plus, devant leur public, je sais pas, il y avait 300 personnes au taquet. On arrive derrière, bonjour.
Et du coup, on est arrivé derrière avec notre musique qui est finalement assez sombre. Et justement, voilà, par exemple, l'une des problématiques à gérer, et à chaque, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque concert, c'est quand même différent. Donc voilà.
T'es dit, tu n'en as pas parlé, mais toi, ton expérience de la scène, donc, de ton côté, comment tu vis ça?
Eh bien, particulièrement dans Over the Snare, disons, parce que c'est pas pareil dans tous les groupes, quoi. Mais dans Over the Snare en particulier, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu le passage de la prod au réarrangement pour le live. C'est un truc que j'adore parce que du coup, réussir à redonner un peu le même esprit qu'on a travaillé en production et en même temps peut-être ajouter ou enlever des choses en fonction des nouveaux sons, ce genre de trucs. Et moi j'adore cet exercice-là de travailler ça, le réarrangement, mais personnel, du coup pas que en groupe, quoi, sur justement ma partie clavier et machine. Et du coup, oui, c'est pareil, sur scène, c'est voir justement s'il y en a pas trop, s'il en manque pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Et puis bien sûr, la scène, comme pour tout le monde, je pense qu'il y a quand même un côté très une confrontation au public qui est quand même géniale. Et puis il y a quand même beaucoup d'ego, quoi qu'il arrive. Quand on est sur scène, on est là, on est sur une scène, tout le monde nous regarde, et ce truc là c'est vraiment une super expérience, quoi. Enfin, je pense que là dessus on est quand même tous d'accord, quoi.
Et souvent, les groupes, enfin les artistes me parlent qu'il y a une sorte de décharge d'adrénaline sur scène. Ça vous le fait, ça, une sorte de shoot,
ouais, c'est ça. Mais ça va avec, en fait.
Une émulation, quoi. Ouais. Quand t'arrives sur une scène, t'as 300, 400, 500 personnes qui sont là et qui réagissent quand tu fais quelque chose. Ben forcément, ça te booste.
C'est ça.
Ça te booste. Ouais.
Puis c'est une perception, quoi, ça donne confiance, c'est ce genre de choses, en fait.
Après, puis ça monte, en fait, souvent. C'est ça qui est marrant, c'est que t'as pas un moment, t'arrives sur scène, ouais, t'es au taquet, comme ça, tu ressors de la scène. En fait, non, il y a plein de choses qui se passent. Toi-même, tu sais, des moments où t'es en errance avec toi-même, dans tes émotions, enfin voilà, et du coup, c'est assez.
Ça reste quelque chose de très vivant, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, là, tu te sens, t'es comme une corde qu'on agite dans tous les sens. Enfin, c'est. Ouais, tu ressors, t'es lessivé, quoi, par contre. C'est assez grisant, quand même.
Il reste 5 minutes à la pendule de Radio Canu. Après, vous allez retrouver l'émission Killasoun Massive. Alors, moi, on va se quitter. Je vous propose de se quitter sur Touch the Deadline, le dernier morceau du disque. Et peut-être avant, évoquer vos projets, les concerts, où on vous retrouve sur Internet, avant de se quitter en musique.
Ouais, bah, y a toute l'actu du groupe sur la page Facebook, hein, comme tout le monde. Et puis sinon, donc là, le 11 octobre, au Toy Toy avec Nu sur le Bitume, on joue sur Lyon le...
Peut-être répéter encore, 11 octobre, Toy Toy.
Nu sur le Bitume et Over the Snare au Toy Toy à Villeurbanne. Je crois que c'est bon. Sinon, on joue dans une nouvelle salle qui va ouvrir à Bron, qui s'appelle le Jack Jack, qui va être une super belle salle. Le 10 janvier, je crois. D'ailleurs, on va partager la scène avec un chouette projet Grenoble qui s'appelle BO, avec électro, dub, visu, beaucoup de visuels, c'est super bien. Et puis une tournée aussi qui s'annonce
en février
dans les Alpes. Voilà, on va aller faire un peu le tour des stations.
Voilà. Et sûrement après on rentrera en studio.
Voilà.
Bah, s'il y a un prochain projet studio, enfin je jouerai avec plaisir, enfin vous reviendrez, quoi, en parler
avec grand plaisir.
Voilà, vous avez quelque chose à ajouter? On a tout dit.
Merci
de nous avoir invités.
Merci d'être venu. Et donc je reprendrai peut-être rapidement la parole après ce morceau. Donc c'est le dernier, c'est celui qui clôt l'album, et ça sera suivi d'un petit outro qui s'appelle Under the Bass. Et donc on se quitte avec le morceau Touch the Deadline. Et je tiens à dire, ah oui, qu'on peut retrouver cette émission ce soir à partir de 18h sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc., ainsi que les précédentes. Pour ceux qui l'ont pris en cours, vous pourrez réentendre l'émission Crevers the Snare. Je pense que vous mettrez peut-être le lien sur votre Facebook,
oui,
éventuellement. Et voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, 14-15, avec le groupe Mirabeau. Et on se quitte pour le moment. Donc
il y a Mirabeau qu'on connaît et qu'on aime beaucoup.
Ils seront là la semaine prochaine. Et donc on se quitte par contre avec Over the Snare. Je me répète une dernière fois, Touch the Deadline. Voilà, à la semaine prochaine, 14-15.
To be the time.
C'était Over the Snare dans quelques instants, Killa Soon Massive. Et je vous laisse, moi, quant à moi, avec les bandes continues. Rendez-vous la semaine prochaine, 14-15, avec Mirabeau. À la semaine prochaine.